Eve. 10h30 à Paris, 8h30 en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Et la Côte d'Ivoire, la une justement ce matin, avec la condamnation à 2 ans de prison pour un leader syndical enseignant, des enseignants ivoiriens qui sont en grève, qui réclament le paiement d'une prime, mouvement considéré comme illégal par les autorités d'Abidjan. D'autres leaders syndicaux, eux, ont été interpellés pendant plusieurs heures hier. Dans ce journal également, on parlera des conséquences des fermetures réciproques des espaces aériens du Mali et de l'Algérie. On parlera du Fonds monétaire international qui vient de terminer une visite au Sénégal. Et du retour annoncé en République démocratique du Congo de l'ancien président Joseph Kabila. Une condamnation donc, mais aussi plusieurs interpellations hier en Côte d'Ivoire, en plein mouvement social des enseignants, mouvement considéré comme illégal par les autorités. Plusieurs responsables syndicaux ont donc été arrêtés pendant quelques heures, alors que dans le même temps, un leader syndicaliste, Ghislain Dugarry Assi, a lui été condamné à 2 ans de prison ferme pour coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement du service public. À Abidjan, la correspondance de Binta Diagne.
L'exercice du droit de grève a-t-il été fait dans le cadre de la loi? Pendant 3 heures, cette question a été au cœur des débats qui ont tenu en haleine une salle pleine d'enseignants. Nulle part dans les textes, nous n'avons vu qu'il est indiqué d'autoriser un syndicaliste de se rendre dans un endroit et de suspendre le service public, affirme le tribunal. La justice reproche à Ghislain Assi d'avoir divulgué des messages de sensibilisation à la grève un jour ouvrable dans des établissements scolaires. La défense déplore ce délibéré. Les avocats contestent d'abord la forme. Leur client, disent-ils, a été arrêté à son domicile vers 2h du matin le 2 avril dernier sans convocation. Par ailleurs, les conseils de Ghislain Assi estiment qu'on cherche à briser le droit de grève. Maître Léon-Paul Botteau.
Il n'y a pas de vide juridique. Le droit syndical est fondé en Côte d'Ivoire dans la Constitution. Et son exercice ne se fait pas en dehors des heures de travail. Ça se fait pendant les horaires de travail. C'est connu. Mais quels sont les faits reprochés à M. Assi? Simplement d'avoir véhiculé le message comme quoi il y aura une grève. Mais il l'a fait en tant que chargé de communication du MEDD. Donc il était dans sa mission.
La défense compte faire appel de cette décision. Binta Diagne, Abidjan. RFI.
Et sur ce sujet, Juan Gomez attend vos réactions. Le débat d'appel sur l'actualité dans un peu plus de 5 minutes sur RFI. Avant cela, on s'intéresse maintenant à ce qui constitue la dernière étape en date de la crise entre le Mali et l'Algérie après la destruction la semaine dernière d'un drone malien à la frontière entre les deux pays. Avant-hier donc, lundi, Mali et Algérie se sont mutuellement fermés leurs espaces aériens. Concrètement, cela veut dire que tous les avions en provenance ou à destination du Mali n'ont plus le droit de voler dans le ciel algérien. Et réciproquement, vols militaires mais aussi vols civils. De combien de ces vols parle-t-on? Quelles conséquences pour les usagers? David Baché a posé la question à Mamadou Laminso, directeur à Dakar d'Aviatech, une société de conseil dans le secteur aérien.
L'Algérie a beaucoup de vols vers l'Afrique subsaharienne. Eh bien, l'Algérie va devoir rerouter tous ces vols, ce qui a un impact économique, bien sûr, et opérationnel, aussi bien sur les temps de vol, sur les consommations de carburant, sur la nouvelle planification, et donc des coûts supplémentaires. Déjà, tous les vols de la compagnie nationale algérienne, il y en a beaucoup qui opèrent en Afrique subsaharienne, mais aussi tous les vols internationaux qui étaient en escale dans le territoire algérien et qui doivent continuer leur vol en Afrique. Ils ne doivent pas survoler l'espace aérien malien. Les vols qui viennent du nord vont pouvoir contourner par le Maroc et par la Mauritanie ou alors par l'espace tunisien et libyen.
Mamadou Laminso, le directeur de la société de conseil Aviatech. Au Sénégal, le FMI assure qu'il compte bien continuer à travailler avec Dakar. Une nouvelle délégation du Fonds monétaire international vient de quitter la capitale sénégalaise après une visite, encore une fois, consacrée aux conséquences de la dissimulation par l'administration précédente d'une partie de la dette du pays. À Dakar, Juliette Dubois.
Abebe Ahemro Selassie, le directeur Afrique du FMI, a rencontré le président Bassirou Diomaye Faye, le ministre de l'économie et le ministre des finances au cours de cette visite de deux jours dans la capitale sénégalaise. Le représentant parle de discussions constructives et des mesures envisagées ensemble pour surmonter, je cite, les défis économiques rencontrés par le pays. La page Facebook du ministère de l'économie évoque la possibilité d'un nouveau programme économique après la suspension du précédent programme de prêt suite aux révélations d'irrégularités dans les comptes publics. Mais du côté du FMI, on n'en est pas encore là. On affirme que cette visite intervient dans la continuité de la précédente et que le travail continue d'abord pour faire la lumière sur les 7 milliards de dollars de dettes cachées. Des discussions qui continueront à Washington où les autorités sénégalaises se rendront au FMI et à la Banque mondiale pour des réunions techniques. La présidence sénégalaise de son côté affirme être engagée dans des mesures de transparence, de lutte contre la corruption et d'assainissement des finances publiques, avec ou sans le FMI, je cite. Le Premier ministre Ousmane Sonko devrait annoncer les premières mesures dans ce sens jeudi à l'Assemblée nationale où il est attendu pour des questions d'actualité. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Dakar, d'où est originaire un spectacle proposé aujourd'hui à Kinshasa, au Jardin botanique et à l'échangeur de Limété. The Herds, en français les troupeaux, spectacle de danse et de théâtre, sensibilisation à la lutte contre le changement climatique. Notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff, a visité l'atelier de fabrication des marionnettes des animaux qui sont des porte-parole de la crise climatique.
Une tête de gnou est découpée dans une plaque de contreplaqué. Juste à côté, Fatoumata, étudiante en sociologie et comédienne, coupe de grands lambeaux de tissu.
C'est vraiment fascinant au finish de voir le résultat.
Le résultat, c'est une dizaine de squelettes en bois articulé, des zèbres, des gnous, des singes, une girafe et un éléphant, grandeur nature et fait de récup. Sarah Desbois, chargée de la production au Sénégal.
On utilise par exemple des chambres à air qu'on trouve dans la rue pour faire l'articulation du cou et des jambes. Et ces marionnettes, en fait, vont être animées par des jeunes comédiens, artistes, danseurs.
90 artistes sénégalais seront mobilisés pour ce spectacle qui mélange danse et théâtre. Conçu par une compagnie sud-africaine, Ukwanga, ces marionnettes se veulent les porte-parole d'une crise climatique toujours plus destructrice. Hansi Visage est l'un des concepteurs des animaux.
Nous voulons vraiment créer de l'empathie avec les animaux et leurs souffrances, faire ressentir les dommages que nous infligeons en tant qu'humains à la planète. C'est une merveilleuse façon de sensibiliser grâce à la magie du théâtre de marionnettes. Ce sont des conversations visuelles, c'est du mouvement, des émotions qui dépassent la barrière de la langue et des frontières.
Après Kinshasa et Lagos, le troupeau de zèbres et de gnous envahira différents quartiers de Dakar avant de poursuivre sa route vers le nord. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
La RDC où l'ex-président Joseph Kabila fait savoir qu'il va bientôt rentrer au pays après environ un an passé à l'étranger. Retour qu'il justifie dans une déclaration écrite par la situation sécuritaire et institutionnelle du pays, dit-il. D'après ses proches, ce retour pourrait avoir lieu dans les prochains jours par l'Est congolais. Des proches qui n'excluent pas que l'ancien président prenne part aux actions de l'AFC M23 qui occupe une bonne partie des provinces du Nord et du Sud Kivu. Et avant de retrouver Juan Gomez, les sports, comme en Europe, en Afrique, ces jours-ci sont synonymes de quart de finale de la Ligue des Champions, quart de finale retour hier avec les qualifications pour les demi-finales du tenant du titre, l'Al Ahly du Caire, qualification aussi de Pyramids, autre club égyptien, et des Mamelodi Sundowns. Aujourd'hui se joue le dernier de ces quarts de finale retour, Orlando Pirates face au Mouloudia d'Alger. Et le football, c'est aussi la préparation de la CAN féminine. Hier, match amical entre le Maroc et le Cameroun. Les Lions indomptables qui n'ont pas participé aux dernières grandes compétitions et qui ne sont pas qualifiés non plus pour la CAN au Maroc dans 3 mois. Autant dire qu'elles avaient fort à faire face à d'autres Lions. Hier, les Lions de l'Atlas, l'une des meilleures équipes actuelles sur le continent africain. Et les Camerounaises se sont imposées 1-0 sur place. François Mferkataji.
Elles n'avaient pas joué en match officiel depuis plus d'un an. Leur dernière rencontre remonte à février 2024 face au Nigeria. Les Lions indomptables n'étaient pas parvenus à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Sur la pelouse du stade Jego, c'est la capitaine Gabrielle Ngene, pilier historique de l'équipe, qui montre la voie. Lancée en profondeur, elle parvient à tromper la gardienne marocaine en 1 contre 1. Les jeunes joueuses camerounaises ont aussi répondu présentes, selon la gardienne Ange Baou.
Je pense que c'est le projet pour lequel la fédération travaille, le staff aussi. Les frais, la jeunesse pour mettre le tennis dans le jeu et... Voilà, peut-être que l'avenir nous dira mieux.
Le score aurait pu être beaucoup plus sévère pour le Maroc. Les Camerounaises ont eu la maîtrise du ballon. 6 occasions franches, dont une barre transversale. Un petit manque de réalisme, note un supporter camerounais dans le public.
Malheureusement, il n'y a pas eu suffisamment de buts comme la physionomie de la rencontre pouvait nous le démontrer, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, il y a eu beaucoup de situations en zone dangereuse, mais malheureusement les filles ont énormément pêché à la finition. C'est à ce niveau qu'il faudra corriger les choses.
Les 600 supporters marocains, eux, ont poussé jusqu'au coup de sifflet final. Insuffisant, 1-0 pour le Cameroun. François Imfakataji, Casablanca, RFI.
À Casablanca, au Maroc, il est maintenant 9h40 et vous êtes avec Juan Gomez.
8h40 en temps universel. Merci Xavier Besson. Prochain grand rendez-vous.